Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
L'ordre du désordre politique en Afrique, les causes. Avec la décision que les chefs d'État et de gouvernement africains ont prise lors du sommet de Khartoum en 2007, qui consistait donc à adopter la charte de la Renaissance africaine, on a fait un grand pas en avant dans l'éducation de la jeunesse et des peuples d'Afrique. La charte a décidé que, pour cette renaissance culturelle de notre continent, il faut que tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles du continent apprennent l'histoire de l'Afrique. Non pas seulement l'histoire de leur pays, mais l'histoire de tout le continent. En effet, l'apprentissage de la seule histoire du pays conduit souvent à des dérives, à des déformations, à des bourrages de crâne, alors que l'histoire générale du continent permet de voir les points communs, les différences entre les pays, entre les régions du continent, en réalité plus de points communs que de différences. L'histoire, en fait, ce n'est pas seulement l'étude du passé. On étudiera le passé, bien sûr, mais le passé ne sert à rien s'il n'aide pas à comprendre le présent. Or, ce présent, si on le prend sous l'angle politique, est un présent extrêmement difficile, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de traits négatifs, ce que vous appelez l'ordre du désordre politique. Bonjour, professeur Jean Cambaye.
Bonjour, mon ami.
L'ordre du désordre politique en Afrique noire, c'est le titre d'un livre que vous venez de publier récemment, qui est donc l'approche par un historien des questions de l'Afrique contemporaine. Donc ça n'est pas l'approche du journaliste ou l'approche de l'expert international de l'Union africaine ou de l'ONU qui vient regarder les choses un peu au ras du sol, qui les décrit telles quelles et cherche des remèdes. Et évidemment, on connaît le résultat, on ne trouve pas les remèdes, puisqu'on ne connaît pas les causes. Vous parlez de concepts un peu contradictoires, puisque vous dites le désordre politique, et vous expliquez qu'il existe un ordre de ce désordre politique. C'est bien ça?
Oui. Je remercie, Réfi. Je vous remercie tout particulièrement. Vous comprenez, j'ai écrit ce livre-là du dedans. Du dedans, pour montrer que, avant que le désordre ne s'installe, et je dirais pourquoi ces deux ordres, et qu'est-ce que c'est les deux ordres? Il y avait de l'ordre. Il y avait de l'ordre. Les Africains étaient eux-mêmes. Les Africains se dirigeaient par eux-mêmes. Les Africains étaient, si vous voulez bien, étaient heureux, étaient organisés. Il y avait des chefs. Bon, appelez-les comme vous voulez, mais en français on les appelle des chefs. Des fumu. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un de l'extérieur qui arrive, qui va dire, moi je veux mettre de l'ordre. Et cet ordre-là, selon lui. Et comme il a trouvé de l'ordre, il veut mettre de l'ordre selon lui. Cet ordre qu'il met, selon lui, je l'appelle désordre. En effet, depuis qu'il a installé ce désordre-là, voici depuis le 14e siècle, vous voyez, c'est le siècle bien connu de l'esclavage, le désordre s'est installé en Afrique. Et souvent, un professeur, souvent, il est difficile pour apprendre à nos jeunes, comment compter. Quand on dit à un jeune, un siècle, il se réalise à peine qu'un siècle, ça fait 100 ans. Il ne s'imagine pas, ça fait 100 ans. Et quand vous dites, nous avons été esclavagisés, voici 6 siècles, il n'imagine pas que ça fait 600 ans. Et, n'est-ce pas, une mentalité installée, voici 600 ans, ça devient une nature. Et cette nature-là, en fait, c'est du désordre. Mais pour l'esclavagiste et pour les colonisateurs, c'est pour lui l'ordre. Alors voilà qu'on a installé chez nous l'ordre qui nous a amené le désordre. Quand vous dites à quelqu'un, un jeune, qui est né en 60, n'est-ce pas, vous dites, voilà, nous avons été colonisés, il dira, ah, mais c'est bien, les Blancs nous ont amené ceci, les Blancs nous ont amené cela, c'est grâce, et même maintenant aux universités, c'est grâce aux Blancs que nous sommes entrés dans la modernité, dans la postmodernité. Quand vous lui dites, mais non, cet ordre-là, c'est la, la continuation de l'ordre du désordre. Alors, par ce livre-là, j'ai regardé à l'intérieur. Vous l'avez si bien dit, essayez d'être historien de l'intérieur. Voilà. Donc, nous devons faire un effort d'étudier ce désordre-là que les autres ont cru mettre de l'ordre parce qu'ils sont partis de préjugés défavorables. Comme tels que nous étions, nous voici directement considérés comme barbares. Parce que eux ne nous comprenaient pas selon leur ordre. Alors que nous étions parfaitement bien dans notre ordre, eux ont amené l'ordre. Et cet ordre-là, je l'appelle le désordre chez nous. Voilà.
Alors, ce désordre, puisque on parle de politique, il faut voir d'abord, il n'y a pas de politique sans un espace organisé dans lequel les gens ont des relations entre eux et parmi lesquels il y a un groupe de personnes ou une personne qui est censée incarner la légitimité et le pouvoir. Alors, les États anciens de l'Afrique avaient leur espace. Alors, maintenant, le nouvel espace qui est issu, après beaucoup de discussions, peut-être même des conflits de la conférence de Berlin, est-ce que ces espaces-là, comment dire, avaient la qualité ou la vocation à devenir des États ?
De l'extérieur, vous voyez, les plus forts sont arrivés, moyennant chicote. Mais il ne faut pas jouer avec ça, cher ami. Il faut dire ça à la jeunesse africaine, dans un contexte panafricaniste. Moyennant chicote et carotte très très bien. Alors, l'espace arrivé, notre espace à nous était bien à nous et on se mouvait très bien à l'intérieur de l'espace. Et cet espace-là était notre cité. Et la cité était, si on veut bien le mot, gouvernancée. On savait ce que c'est le citoyen, c'est-à-dire le propriétaire de la cité. Il savait comment vendre, il savait comment aller au marché. Il y avait des lois de l'offre et de la demande. Voici quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui arrive avec un intérêt particulier de vous exploiter. Aujourd'hui, les gens diront, voilà, professeur Kambay, vous êtes en train de délirer, vous êtes revanchard. Mais non, l'idée était que nous venons là-bas parce que nous avons besoin de votre sol. Alors, on vous dit, vous n'êtes plus Kambay, vous êtes Jean. Vous n'avez plus de tradition, vous avez des coutumes barbares. Vous n'avez plus... appelez-vous Jean, désormais, parce que le nom Kambay, d'abord, nous ne savons pas l'écrire. C'est quel nom, ça? Boacha, ben non, c'est quoi? Bokolo et Elika, ben c'est quoi, ça? Alors, nous vous donnons un nouvel ordre. Et cet ordre-là, moi, j'appelle ça désordre. L'espace est complètement détruit. Complètement détruit. Comme la cité, gouverner une cité, c'est le diriger, c'est gouverner, c'est un art. Automatiquement, nous entrons dans un art que nous maîtrisons mal. Automatiquement, sur le plan politique, notre cité nous a échappé. Alors, comme c'était le plus fort qui devait nous gouverner désormais, nous étions devenus des sujets de notre propre cité. On a installé une nouvelle cité que nous ne maîtrisions pas, devenant sujet de nouveaux. Et voilà, les désordres s'est installé. Et c'est pour cela que la conférence de Berlin 1885 est venue pour achever le désordre chez nous, en Afrique. Et pour eux, mettons-nous une carte au mur, même ceux qui n'ont jamais mis le pied en Afrique, moyennant un crayon, ils ont coupé, moi je veux ça. Et quand ils ont vu que c'était plus riche par ici, au Congo par exemple, ben, tout le monde s'est levé et dit, écoutez, le bon Dieu doit être méchant, comment il a donné ce morceau si riche? Alors on a coupé les lignes droites. Et ces lignes droites, on les trouve à l'intérieur de nos provinces, à l'intérieur de notre pays, même à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre mental, de notre âme. Donc nous sommes déboussolés. Nous ne sommes pas seulement piégés, nous sommes déboussolés, nous sommes anéantis complètement jusqu'à 60. Et voilà cet ordre-là qui continue avec nous, l'ordre du désordre, le désordre donc, ce maintenant. Et il y a eu le néocolonialisme. Est-ce que ça a changé? D'où la confusion totale au sujet de l'indépendance. C'est quoi l'indépendance, selon nos leaders? Voilà les gens qui s'en vont, pour le Congo particulièrement, ils s'en vont à la table ronde. sans savoir réellement ce qu'est l'autorité, ce qu'est l'indépendance, c'est quoi l'autonomie. Tout ça, le désordre s'est installé mêmement dans leur mentalisme. Vous comprenez, c'est pour cela que vous avez bien dit au début de l'émission, c'est pourquoi je pense que nous devons regarder à l'extérieur, autour de nous autres, pour croire que l'Afrique peut se remettre que moyennant le panafricanisme.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs.
L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempt de tout complexe et de toute crainte.
The resolutions we have made here are a symbol of our determination to become united and to remain united in an African community.
Le micronationalisme n'a fait qu'éparpiller les énergies créatrices des peuples d'Afrique.
Mémoire d'un continent. Elikiam Bokolo.
Le professeur Jean Kambaye Boacha est notre invité d'aujourd'hui, professeur à l'Université pédagogique de Kinshasa, où il enseigne l'histoire, où il fait des recherches sur l'histoire, et surtout où il enseigne à des jeunes gens et à des jeunes filles à enseigner à leur tour l'histoire aux jeunes. Donc c'est l'ambition de cette nouvelle série d'émissions. Professeur, nous parlions du charcutage, hein. Donc l'Afrique, c'est un peu comme un bœuf, on a été à la chasse, on l'a tué, maintenant on découpe, chacun prend qui un gigot, qui une épaule, etc. Mais alors, quand l'indépendance arrive, est-ce que ce n'était pas possible, à l'intérieur de ces espaces, de construire des États et de faire des nations? Est-ce qu'on n'a pas d'exemple en Afrique d'hommes d'État ou de femmes d'État qui ont essayé de construire des sortes de nations et de véritables États avec des institutions, des choses qui marchent, etc.?
Ça s'appelle, dans notre façon de voir au niveau de l'histoire de mentalité, des hommes de lumière. Il y a eu des hommes de lumière. Et ces hommes de lumière ont eu double expérience. L'expérience critique, leur propre expérience, expérience, la connaissance plus ou moins parfaite de leur milieu, de leur état, et citons le nom, quand un homme comme Kwame Nkrumah pense à l'indépendance, à la façon d'être de Guinée et plus de l'Afrique, de Dakar, donc comment dirais-je, Accra, et il est allé loin. Mais entre-temps, pendant la colonisation, il avait l'expérience de Londres. Il a vu comment les Anglais ont construit leur propre État à partir de leur histoire. Vous voyez, et les Sékou Touré, tous ceux qu'on a appelés les pères, n'est-ce pas, de l'indépendance, il y avait cette double connaissance. Connaissance de leur propre milieu et connaissance du milieu des autres. Et ils se sont dit, nous aussi, mais attention, nous ne pouvons pas le faire comme les Anglais ou comme les Belges. Ou comme... Ils se sont dit, nous allons le faire, mais attention, soyons unis, soyons ensemble. Faisons, parce que nous savons que quand on est nombreux, on construit des espaces. Il y a eu des gens formidables. Et si on regarde aujourd'hui, professeur, et les germes, n'est-ce pas, où naissent le sens nationaliste, c'est ça, dans ces pays-là. Vous les trouvez en Afrique de l'Ouest, vous les trouvez en Afrique du Sud, vous les trouvez au Maghreb quelque part, où les gens sont restés collés à leur tradition en termes dynamiques et ont pris l'expérience des autres, mais se sont dit d'abord pour l'Afrique. Et ils ont considéré l'Afrique, non pas en termes de nation comme aujourd'hui, ils ont considéré l'Afrique comme, bien sûr, des cités, mais des cités ayant des emboîtements, de branchages sur d'autres. Ainsi, on pouvait trouver, par exemple, très facilement, quelqu'un qui se déclarait Peul, Aujourd'hui, il serait au Burkina. Mais en même temps, il s'est dit, non, moi, j'étais nommé Premier ministre ailleurs, vous voyez. Et c'est tout un problème. Et l'ordre du désordre nous a amené un autre désordre où on trouve justement ce travail, comment dirais-je, ce travail de, on est Premier ministre ici, mais on est taxé d'être originaire d'eux. Ça crée un désordre terrible.
Donc d'être étranger et donc illégitime à occuper le poste qu'on occupe.
Alors quand on regarde maintenant la notion de IT, l'ivoirité, congolité, gabonité, alors ça fait naître en nous une nouvelle nationalité, en fait, qui n'est pas nationalité, parce que notre nationalité, au fait, c'est l'Afrique. Alors, vous amenez congolité, ça veut dire que vous êtes différent de le Congolais de Kinshasa et le Congolais de Brazzaville. Je ne sais pas quelle est la différence y a-t-il entre leur congolité. Sékou Touré avec Kwame Nkrumah, je ne sais pas où il y a tellement de différences. Alors, cet ordre-là amené par la colonisation et le néocolonialisme a créé et continue à nous faire du mal jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous avez parlé de charcutage. Réellement, le mot est encore faible. Mais je n'ai pas trouvé dans mon livre, un terme encore beaucoup plus grave que ça. Charcutage.
On pourrait dire aussi amputation, sans recoudre les différents morceaux, en les laissant comme ça, notamment par les frontières.
Oui. Saucissonnage. Et plus, comme vous l'avez si bien étudié dans vos propres publications, plus on a donné à l'Africain, moyennant carotte, moyennant bâton, une conscience tribale. Comme vous l'avez étudié vous-même, et je l'ai repris dans mon bouquin, quel est le cet Africain qui connaît ce que c'est la tribu, professeur? Et quelle différence y a-t-il entre tribu et ethnie, professeur? Quelle différence y a entre ethnie et clan? Il comprend peut-être ça quand il est au village. Et qu'est-ce que signifie village dans nos langues aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie village? Alors, on dit, bon, parce que c'est la tribu, c'est vieux ça, ça fait romain, parce que c'est tribu, donc c'est un peu barbare. Et comme tribu doit défendre la tribu dans la ville, on dit alors, l'idéologie devient tribaliste. C'est un peu barbare. L'ethnie, c'est quand il y a quelques tribus ensemble, ils se mettent là sans tellement savoir, l'ethnisme, et puis on va clanisme. Voici les isolats sociologiques malfaisants qui mettent l'Afrique en danger. Et le IT en question, gabonité, Burkina Fasoïté, congolité, Mozambique, je ne sais pas, vous voyez un peu.
Mozambicanité.
Angolanité. Guinée-Bissauité. Bon, écoutez, on me dit souvent quand j'ai fait mes conférences que j'exagère. Mais non, professeur. Je ne peux pas donner le cours d'histoire sur l'Afrique à mes besoins sur le modèle pédagogique venu d'ailleurs. Je regarde mes réalités et je crée des mots pour dire ça ne doit pas être comme ça. Jeunesse africaine, réveillez-vous pour refaire notre histoire sur le modèle panafricain. C'est pour cela que je suis avec les Kodjo, avec le Bokolo, avec l'Amsel, avec tout ce monde-là, blancs ou noirs, qui sont dans ce contexte-là. Voilà, professeur.
Merci beaucoup à vous, professeur Jean Kambaï Boacha, pour cette étude de l'ordre du désordre politique, titre d'un livre que vous avez publié récemment et sur lequel nous allons revenir dans une prochaine émission. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.